Que la lumière soit. Dans la pénombre, une ombre qui s'avance. Mais de la lumière, on voit que dalle. Pas besoin d'y voir pour manger. Elle était comme ça, la Solange. Elle veillait au grain et, dépensée, son peu lui déchirait les entrailles. Donner à d'autres le durement accumulé était une épreuve. Alors, quand son grand beau biais de fils n'éteignait pas la lumière ou en voulait de trop pour lire les aventures de Blake, elle ne cédait pas. Et moi, le fils, j'étais autant agacé que peiné. L'obscurantisme de ma mère m'horripilait, mais je dois reconnaître qu'il fut ma principale motivation pour suivre de longues études. Bien au-delà du BTS agricole de mise, indispensable au fils aîné pour reprendre la ferme. D'autres études m'écartèrent de la destinée qui devait m'échoir. Jamais je ne les ai regrettées. Solange accusa le coup, supportant assez mal que son gendre prenne ses terres, mais fut quand même assez fière d'avoir un docteur à domicile. Ce qu'elle n'avait pas prévu fut mon éloignement de la région et du pays. Ma luxembourgeoise, représentante très bourgeoise de femme, m'écarta de mon ancien monde et se chargea de mon éducation. Cela dit, sans acrimonie, compte tenu de mes quelques réflexes éducatifs qui trahissaient un peu trop mes origines et avaient fini par me nuire dans mon milieu professionnel, bien moins ouvert que ces discours de concorde. Tout est parti d'un désir sabbatique. Le regard que nous avions porté sur notre moitié de vie déjà écoulée avait suffi pour nous convaincre. Suspendre notre envol, prendre le temps de compter les moutons pour s'endormir et abandonner les antidépresseurs. Une évidence trop évidente. Tu devais briser cette irrésistible ascension qui te déshumanisait et je devais faire la pause pour ne pas me lasser d'un métier qui ne supporte pas l'à peu près. L'idée d'une itinérance bohémienne fut acquise. Une sorte de voyage initiatique vers l'autre avec un regard plus apaisé, plus serein, sans attente. Une vision nouvelle que nos vies suractives empêchaient de savourer. Un désir grégaire dont nous étions frustrés alors que, comble des combles, nous étions entourés d'une multitude de gens à les entendre passionnants tout le long de nos harassantes journées. Et, bien au-delà de ce besoin, le désir de simplicité, de franchise, l'absence de calcul, le retour de la salutation au soleil de l'aube au couchant. Pour nous deux, un irrépressible désir de retrouvailles nous animait. Nous avions le sentiment d'avoir perdu, petit à petit, notre volonté d'ensemble. Nous vaquions ailleurs de l'autre. Nous nous enfermions dans nos soucis sans en référer à l'être complémentaire, en cachant nos doutes, nos troubles, nos craintes. Jusqu'à nos joies que nous ne partagions plus. Le temps s'était fatigué de nos bonnes intentions et de nos promesses non tenues. Il nous condamnait à vivre tous deux dans les ressentiments. Nous avons dit « suffit », le prononcer et puis le faire. Rien de bien compliqué en somme. Les discussions liées à la préparation de cette grande pause furent le début de tout. Avec chaque jour une envie nouvelle, notre exaltation croissait, croissait comme les herbes folles parmi les coquelicots dans les champs de blé où nous batifolions jadis et qui demain serait de nouveau notre terrain de jeu. L'impitoyable banquière et le pragmatique carabin retrouvaient une poésie, un sens à cette vie de réussite, pas si réussie que ça. Nous avions d'abord pensé nous déplacer en camping-car pour notre longue escapade, mais très vite, après quelques observations, nous avions abandonné l'idée. Tu ne voulais pas ressembler à une semi-grabataire profitant de sa retraite à grands coups d'anisette. Je ne voulais pas découvrir les règles de la pétanque et ses subtilités avec ceux qui parlent de leur vie d'avant, déjà morte, ou d'un avenir qui ne tardera pas à l'être. Les zombies du parking ne nous attiraient pas malgré notre désir de pactiser avec les différences. Et puis, vivre au plus près des gens en étant systématiquement rejetés aux périphéries des villes nous apparaissait très éloigné de la liberté. Nous avions choisi la discrétion plutôt qu'une énième colonne, qu'une caravane de romanichel de luxe, je veux dire par luxe sans les inconvénients, peuplée pour l'essentiel de craintifs inadaptés à la solitude. Nous sortions du poids d'un environnement défini en catégories. Le but n'était pas d'intégrer un nouveau club. Quoiqu'un club, ce soit chouette. C'est chouette, les clubs. Prêts à rompre avec nos habituelles berlines de teutons opulents et m'as-tu vu, nous fîmes, aux grandes dames de notre entourage, l'acquisition d'un véhicule utilitaire rustique, histoire de passer partout inaperçu. Jenny n'avait aucune idée précise du devenir, mais avait la conviction que, pour que notre voyage nous soit profitable, il ne devait faire référence en rien avec notre passé. Fini les heures de vol, les résidences ou hôtels de luxe, les tables recommandées, les points de vue incontournables, le musée qu'il fallait voir et les monuments dûment mandatés par les guides touristiques. À nous le reste du monde, les autres toits, les autres hôtes et les coins pas spécialement touristiques. Restait à choisir un thème. Ce que nous ne fîmes pas, ou alors après, à notre retour. Car nous fûmes forcés de constater qu'un fil conducteur s'était glissé sans qu'il y soit au préalable invité. Une belle et longue étape pour le vent, Minorque, île des murets de pierres sèches, nous connaissions plutôt bien l'endroit. Nous avions l'habitude de le fréquenter, 2 ou 3 jours hors saison pour décompresser, comme ils disent. Nous la considérions comme le fleuron des Baléares. Mais ce fut bien différent. D'avoir enfin le temps de se promener en flânant, d'envisager les journées autrement qu'au pas de charge, différent et, surtout, tout bénef pour notre histoire intime. Nous nous baladions de longues heures, errant sans but précis, toujours surpris de découvrir avec d'autres yeux des endroits où nous étions pourtant déjà allés. L'angle, l'axe, le point de vue, ce qui donne à chacun un mouvement changeant au gré des jours. Je m'étais figé un moment devant une frisonne. Elle m'avait défié du regard avec un air vache qui en disait long sur sa condition. Le mélange d'une grande lassitude et d'une belle sérénité. Un exemple à suivre pour les excités du bulbe. Jenny avait un peu peur. Bizarre pour celle que je savais guerrière et impériale parmi les chacals. Toujours prête à rayer le parquet. Bizarre de craindre ce gentil bovidé inoffensif, plus craintif qu'agressif. Nous avions fait quelques pas pour nous asseoir le long d'un des innombrables murets de pierres sèches. Après un long câlin préliminaire, nous nous sommes empressés de rejoindre notre gîte. L'activité physique, le calme, les préoccupations laissées derrière et le grand air avaient un effet magique sur notre libido. Demain, nous irons faire un tour au Mont Taureau, mais n'y vois aucune malice. Je me garderai d'une telle facétie. Tu m'avais posé un doigt sur les lèvres en souriant, puis remis en place la mèche folle qui garnissait le haut de mon crâne trop avare de poils. Le soir, nous avions mangé une soupe de langouste pour faire les touristes et préparé des sandwichs au fromage de l'île pour le lendemain. Les dizaines de plages de sable d'ocre plongeaient dans une mer turquoise irrésistible. Même pour des baigneurs peu motivés, elles étaient une invitation aux origines liquides. Nous avions choisi une petite crique tranquille, très facile à trouver hors saison, pour s'allonger et lire au soleil entre chaque trempette. Jenny lisait God's Little Acre dans le texte. Pour moitié américaine, elle souhaitait garder un pied dans cette culture, et pour cela ne perdait pas le contact avec la langue. Moi, avec mon doigt pour ne pas sauter de ligne, j'essayais de comprendre un magazine en espagnol, avec l'aide d'un lexique. Un article très détaillé techniquement sur les hydroliennes m'intrigua et, une fois bien compris, m'interpella. Je ne comprends pas à quoi le monde joue. Et ça veut dire qu'a priori, les îles Baléares, comme tant d'autres, pourraient s'alimenter en électricité avec des hydroliennes. Ça éviterait le côté durable des déchets nucléaires et la mocheté des éoliennes. C'est sans doute une question d'argent. En général, l'argument est suffisant pour prendre des décisions, bonnes ou mauvaises. À force de mettre un prix sur tout, de spéculer sur tout, nous perdons notre âme. N'est-ce pas, ma douce ? Calme-toi, docteur. Je suis assise sur une branche qu'il m'est difficile de scier. Cette discussion pleine d'énergie, bourrée de bonnes intentions et de joyeuseté, fut le point de départ d'une pelote tirée tout au long de notre voyage. Sans cesse, le sujet revint. Signe des temps parce qu'il est grand temps ? Signe de la mode pour une classe bourgeoise dominante en mal de sujets graves ? Ou tout bêtement prise de conscience. « Va donc savoir où se fourre l'espoir », disait Solange en regardant la pluie tomber. Avant de quitter l'île, nous avions consacré une dernière journée ensoleillée à prendre quelques photos. Soif de souvenirs, de traces, de belles images, de nostalgie pour quand nous serons secs et prêts à craquer. Photos que nous ne consulterions probablement jamais, sauf si l'envie de lasser nos amis nous prenait un soir de grisaille ou d'ennui. Tout y passa, la mitraille numérique en quelque sorte. Des produits de bouche au paysage, en passant par ces petits monuments de pierre pittoresques qui étaient en fait d'anciens tombeaux collectifs, que l'on trouve un peu partout, sans oublier la capitale Port-Mahon. Le reportage intégral, le fourre-tout inutile du voyageur parce qu'il sait que rien ne vaut la découverte du premier regard. Nos yeux eurent du mal à se détacher de l'île, mais nous l'abandonnâmes une fois rétrécie et devenue tache, sans amertume avec le sentiment de bien finir un chapitre. De concert, nous avions décidé de faire une étape en Andalousie, très désireux de me trouver une guitare adaptée à mes petits doigts boudinés. J'étais un joueur très moyen qui ne trompait personne d'un peu au fait des croches. Mais comme ça faisait toujours bien de jouer d'un instrument et que j'y prenais beaucoup de plaisir, et un peu d'énervement vu mes piètres aptitudes, je persévérais. Je fus comme un enfant émerveillé devant ces nouveaux jouets en visitant les innombrables échoppes de luthiers et à Séville et à Grenade. Jenny abondait. Son plaisir de me voir heureux me réjouissait davantage. Il y avait une rue dédiée à la lutherie à Grenade, avec dans son prolongement l'Alhambra. J'y passais une journée entière. La plupart de ces luthiers avaient hissé leur artisanat au rang du dessus. Véritables aristocrates du savoir-faire, fins musiciens pour la plupart, oreilles en or pour presque tous. Ils forçaient le respect. L'envol de beaucoup de talents avait pris racine au creux de leurs mains et ça, magique. Bien qu'on m'y invitât souvent, je n'osais jouer de ces guitares. Impressionné, interdit comme un prépubère devant un désir charnel. En vérité, à force d'écouter à chaque coin de rue un joueur amateur doué ou quasi virtuose, je complexais à mort. Mes doigts tremblaient d'avance. Je savais que je ne pourrais retenir mes émotions et faire taire mon orgueil, presque ma honte d'être aussi nul. Les encouragements de Jenny, le soir venu, ne servirent à rien. Car le lendemain à Séville, tout autant fébrile, je ne jouais pas davantage. J'avais pourtant ce sentiment qu'en voulant préserver ma dignité, en faisant le modeste, je l'avais perdue. Mais je m'en remis et fis l'acquisition d'une belle guitare. Elle m'appela sans avoir l'air de me juger ni de me demander quoi que ce soit. Même quand on joue comme un âne, on peut aimer un son plutôt qu'un autre, l'adopter pour la vie. Je ne m'explique toujours pas pourquoi elle et pas une autre. L'appel de la gratte qui démange sans doute. Depuis, elle ne me quitte pas, je m'en charme au quotidien. Je ne l'ai pas nommée, mais je sais que son nom serait doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Tout ceci peut paraître con, mais qui a déjà confié ses secrets aux harmonies d'un instrument me comprendra. Tu vois bien qu'envers et contre tout, tu as l'âme d'un musicien. Il n'y a qu'un musicien pour fusionner avec son instrument. Aimer l'intelligence des autres ne suffit pas et ne veut pas dire que l'on en a ou qu'on la serve. Par-delà les guitares, l'Andalousie nous donna ce que nous cherchions, sans savoir que nous le cherchions. Son aspect aride, presque rudimentaire, servait notre besoin de sérénité, de calme et d'envie de pause. Ainsi cessèrent petit à petit nos illusions encombrantes, savamment entretenues depuis des années. Sans trop savoir pourquoi, en se contentant de suivre une voie tracée d'avance. « Il le faut, disait Jean, mon père. » Quand, comme beaucoup d'enfants, je lui demandais pourquoi. À Santa Olaya, ça ne s'invente pas, notre quartier général provisoire, nous avions pris une décision. La journée chaude, étouffante et les particules irrespirables de la cité nous révélèrent notre nouvelle direction. Un sens différent pour ce road trip. Ce qui devait être une pause dans notre monde « fou, 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 croyez-vous » se transforma en remise en question. Et ensuite ? Les environs de Séville et sa centrale solaire qui fonctionne, qui s'améliore, qui contribue au progrès, qui sous-tend qu'avec un peu de volonté, un peu de courage, un peu d'audace, une vision d'avenir, tout peut exister, nom de rat. Comme il faisait beau, comme il faisait chaud, nous avions profité pour dorer notre peau, puis déambuler parmi les dunes et, le soir venu, à l'abri des regards, même dans les coins les plus reculés, en plein désert, personne n'est à l'abri d'un observateur, arrivé on ne sait d'où. S'aimer davantage. Si ce n'est pas une honte de ne plus penser qu'à ça, baisse ta culotte. Un Sévillan nous avait vanté l'exemple d'El Hierro dans les îles Canaries. Nous décidâmes d'y aller. Nous ne fûmes pas déçus. Cette île est un exemple, un modèle à citer pour les sceptiques qui, d'emblée, pensent que rien n'est faisable et que nous n'avons pas d'autre choix que l'atome. Pour les autres, ceux qui ne l'ont pas crochu mais qui ne souhaitent pas pour autant revenir à la bonne vieille bougie, l'île est une merveille d'ingéniosité, une preuve, un cas d'école. Donc, n'en parlons pas pour ne pas fâcher les lobbies. Et après ? Curiosité renforcée et acte adapté à nos nouvelles perceptions des choses de l'énergie s'imposaient. Il fallait combler le retard auquel notre ignorance crasse et notre indifférence coupable nous avaient condamnés. Mais il est toujours temps, même devenu vieux, on peut devenir intelligent, peut-être. Une croisière de plusieurs jours, là-haut sur la mer à clapots, parmi les éoliennes offshore. Une régate improvisée dans une mer hachée et plutôt remuante. Le vent, un peu trop violent pour notre fière goélette, était de la fête. Nos estomacs, pas trop. Jenny vomissait, et moi je compatissais, et vomissais aussi. Le skipper goguenard buvait du muscadet en mangeant pilchard et cassoulet directement dans la boîte. Le salaud prenait du plaisir à notre déconvenue. Nous en fûmes contrés. Sitôt le dégueulis parti, après quelques nuits de mer agitées sans trouver le sommeil, la vengeance. Car nous avions embarqué de quoi faire de bons petits plats et plein de bonnes choses. Le skipper n'eut pas le droit de s'en rassasier. Arrivés au port, salés comme des cochons, picoler quelques bières dans un bar le long du port nous sembla adapté. Le choix nous incita à goûter, à comparer, et puis le faire encore jusqu'à ce que la brume voile notre regard. Nous avions de nouveau de quoi vomir. Nous pensions faire marin, mais nous n'étions que des crétins. Comme je m'étais frité avec un autre alcoolique, qui avait jeté un œil fripon sur les fesses de Jenny, nous nous étions retrouvés au poste. Un homme, qui sentait fort la transpiration, sanglé dans un uniforme usé et trop serré, nous expliqua doctement que, dans la vie, il fallait être un peu sérieux. Jenny lui avait répondu que les gens sérieux étaient souvent des cons ou des mecs ennuyeux. Il a voulu calmer le jeu, mais Jenny a ajouté qu'elle avait oublié les complexés, ceux pour qui la nature n'avait pas été généreuse. Elle avait le propos blessant et s'en régalait. Mais ça a fini par exaspérer le représentant de la loi, qui décida de nous dégriser plus longtemps. Dans la cellule, l'odeur de vomi nous empêcha de dormir. C'est au petit matin, les yeux gonflés par les excès et la fatigue, que nous retrouvâmes notre liberté. Si mon père me voyait, il boufferait son chapeau, m'enfermerait dans le coffre de sa Rolls. Et le mien me servirait un calva pour me retaper. Nous étions partis depuis 3 mois déjà. Nous passâmes les 3 suivants en Norvège, le pays d'Europe le mieux adapté à l'énergie hydraulique. Glouton vorace, nous avions visité les sites pendant l'été pour constater de visu comment les gars du Nord avaient fait. En commençant par la centrale la plus récente, une centrale réjouissante parce que pas moche, cachée aux abords d'une forêt, de sapins of course, et parfaitement intégrée à un site naturel, Overforsland, apportait la preuve d'une faisabilité harmonieuse. Comme quoi, écolo et esthétique pouvaient se conjuguer, à force de bonne volonté, de réflexion et de ne pas vivre que pour son cul. La Norvège avait su s'électriser en tirant profit des moyens dont elle disposait. Nous pensions retenir ce point positif, ne pas l'oublier pour en parler et faire l'impasse sur l'exploitation du saumon à coups d'antibiotiques. Ainsi, le séjour fut des plus agréables. Les Vikings ne font pas que du ski de fond, sont sympas pour la plupart. Les autres ne parlons pas la langue de Dickens ou celle de Montpassant, nous ne pouvions pas nous prononcer sans faire de douteuses interprétations en nous en tenant qu'à leur gueule sale ou pas. La nature est fastueuse comme il est dit dans les guides touristiques, comme il est facile de le voir avec n'importe quel documentaire. Pour le reste, il n'y a qu'à boire un coup avec eux, il n'y a qu'à manger un morceau avec eux, il n'y a qu'à transpirer avec eux. Et pour savoir les aimer ou ne pas les aimer, revenir ou ne pas revenir, il suffit de se mettre à l'écoute. Il n'y a pas plus de variables d'ajustement qu'ailleurs. Un con est tout aussi con et vous l'êtes tout autant pour lui. Comme quoi, les frontières ne changent pas grand-chose. Le seul intérêt est de partager d'autres coutumes. Mais ça n'engage ni Benito, ni Adolphe, ni Francisco. Je suis le seul responsable de mes propos. De retour dans l'Hexagone, nous avions voulu visiter quelques micro-centrales hydroélectriques. Comme l'eau et ses chutes abreuvent nos sillons d'un flot parfois pur et ce, un peu partout, le pays en compte plus de 2000, nous avions pu les choisir dans des coins que nous ne connaissions pas bien. Ça nous avait fait des dizaines de visites avec des gens toujours curieux, souvent ingénieux et parfois passionnants ou attachants. Des dizaines d'échanges fructueux, surtout pour nous les candides. De parties de rigolade autour d'un repas avec des crus du coin et quelques copinages prometteurs. Des réalisations de particuliers, d'entreprises et de collectivités avec des gens vivants, des gens qui sont des gens. À croire que ce système ne demandait qu'à croître, qu'à se faire mieux connaître. Mais ne l'ébruitons pas. L'autonomie et l'indépendance des uns nuisent aux prérogatives et aux privilèges des autres. À plus grande échelle, les ouvrages étaient impressionnants, mais très laids pour la plupart. Les quelques guides improvisés rencontrés nous laissèrent entendre de futures améliorations. De nouvelles solutions verraient le jour. Sous le soleil de l'arrière-saison, nous bagnaudions dans les montagnes, avec nos petites laines, vu l'altitude et le grand air devenu frisquet. L'occasion de parler, surtout dans les descentes, et de réfléchir à des solutions d'une simplicité enfantine que nous pourrions tous appliquer. Il suffit d'observer les vieux montagnards qui vivaient encore sur place. Leur accoutrement, pas forcément esthétique mais confortable, pratique et surtout adéquat. Eux savaient qu'aller faire du bois était fatigant. Ils enfilaient un pull et gardaient des habits chauds dès que la bise était venue, plutôt que d'augmenter le chauffage et se mettre en slip kangourou. Quand il faisait chaud, ils se mettaient à l'ombre pour profiter de l'air conditionné. Enfantin d'avoir un corps multifonction capable de s'adapter aux variations de température. Enfantin de consommer beaucoup moins d'énergie, en toute simplicité. D'autant que profusion n'est souvent que fusion, depuis trop longtemps. Puis la descente de la vallée du Rhône, bordée par d'autres types de centrales. Des centrales pour lesquelles nous avions désormais un peu plus de méfiance, beaucoup plus de réserve et de crainte. Ne crains rien, jolie muse. Ici, il n'y a pas de tsunami, tout au plus de petits tremblements, de justes frémissements de la terre nourricière. L'erreur humaine est improbable. Les spécialistes veillent, madame. Il faut savoir ce que l'on veut, l'énergie propre d'abord. Calmez-vous, jeune homme. Je n'ai pas peur, d'autant qu'avec une oreille au milieu du front, on s'entendra mieux. Nos amis nous auraient dit « facile » ou « un peu court ». Mais nos amis croyaient à la prééminence de l'homme sur la matière. Mais nos amis pensaient que le génie humain trouverait des solutions à toutes choses, qu'il n'y avait pas lieu de désespérer. Mais nos amis étaient persuadés que l'atome, c'était du propre, de l'avenir et que les problèmes se résoudraient avec le temps, en l'occurrence quelques milliers d'années. Et nous, ringards parmi les ringards, finissions par penser que le fameux et fumeux génie humain devrait être au service de la planète mère qui le portait. Et nous, rêveurs parmi les rêveurs, finissions par penser que jouer aux apprentis sorciers n'était peut-être pas la solution. Et nous, les tocards, nous nous étions convertis, sans bien nous rendre compte, à toutes ces énergies que l'on dit nouvelles, qui sont vieilles comme le monde. Et nous, les globes trottards, découvrions que le génie humain n'était souvent rien d'autre qu'une appréciation erronée et encore plus souvent la traduction d'un ego surdimensionné. Et nous, barrés de chez barrés, finissions par affirmer, sans rire, que l'énergie renouvelable n'était pas une solution mais une nécessité. Et nous, nous osions l'envisager comme un changement. Alors, nos amis, que seront-ils devenus après toutes ces cartes postales? Que penseront-ils des deux loustiques à la sauce biomasse? Comme à l'accoutumée, Solange nous avait accueillis sans joie, sans effusion particulière. Rituel campagnard enraciné bien profond. Mon père fut moins pudique, embrassa affectueusement Jenny, me serra la main trop fort et j'eus même le droit à une bourrade virile. Un truc d'homme que j'avais de plus en plus de mal à comprendre, mon côté féminin sans doute. Le repas se passa plutôt bien. Solange l'accompagna de quelques bougonneries et des reproches habituels. Elle ne nous voyait pas assez souvent, s'en plaignait à demi-mot. Mais ses propos métaphoriques ne m'agaçaient plus comme au temps de ma préadolescence. Je n'y faisais plus attention. Je la laissais m'origéner à sa guise. Jenny ne la comprenait même pas, car Solange mangeait ses mots, et comprendre son débit mitraillette n'était pas accessible à tous. De toute façon, elle ne s'adressait qu'aux initiés qui causaient pareil. Nous n'avions de fait rien à nous dire, nos vies, trop différentes, y étaient pour beaucoup. Je n'avais jamais vraiment aimé ma mère, exception faite de la petite enfance. Mais à la campagne, avant chaque départ, on devient volubile, comme si les heures précédentes passées ensemble ne servaient qu'à se réapprivoiser, après une longue absence. Solange n'échappait pas à la règle. Elle trouvait des sujets et je l'écoutais en bon fils, sans doute pour ne rien avoir à regretter plus tard. Un cousin éloigné de la famille élevait des porcs à quelques lieues. Il stockait le caca des bêtes pour en faire du gaz. Ça nous intéressait. Nous décidâmes de nous y rendre pour voir comment et pourquoi. « Tout est bon dans le cochon, y compris sa merde. » Comme ça fonctionne aussi avec les vaches et tous les autres excréments, le mot n'est pas ben drôle. Solange nous apprit que l'hurluberlu, cousin Marc, n'était pas là et ne le serait plus. Et pour cause, devenu amoureux d'une végane qu'il épousa, il se mit à ne plus manger de bêtes mortes. Petit à petit, il lui devint évident de muter vers d'autres activités. Son remplaçant, lui, avait assez de ses trucs pour ne pas s'encombrer d'une bonne femme. Mais, bien qu'abrupte et peu amène, il nous laissa visiter sa porcherie et son usine à gaz. Il nous expliqua patiemment le procédé de méthanisation comme s'il s'adressait à des demeurés. Et quand je lui demandais pourquoi ce choix, il me toisa un peu dépité. L'énergie, on peut la fabriquer sans dépouiller la nature. Comme il avait de l'ouvrage, il nous laissa en plan pour aller soigner ses bêtes parce que la terre tourne autant tourner avec. Encore un poète mystique extatique. Faut bien dire que la vie du cochon peut faire rêver celui qui le mange. Nous avions trouvé encore une partie de la solution. Être capable de le dire au monde entier ne suffirait pas. Il faudrait être capable de le vivre, l'adéquation nécessaire pour un honnête homme. Il y en a à l'appel des solutions, c'est le pognon qui manque. Dans la famille, je fais du fric, je demande Jenny. Conclusion, c'est à chacun de nous d'huiler l'engrenage, docteur. Les grands nains du pouvoir suivront. D'ailleurs, ils n'ont jamais rien fait d'autre que suivre. Les idées et les initiatives se trouvent chez le voisin. Parfois même, quand t'es pas trop naze, tu te les appliques à toi-même. L'obsolescence des chemins de l'atome comme ceux des énergies fossiles ne faisait plus de doute. La morale devait passer avant l'argent. Et ça, un élu au risque de ne plus l'être ne pouvait y souscrire. Nous nous étions dit « voilà, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça ». Dans la foulée, nous avions pris l'initiative de nous occuper de nos fesses et de l'énergie qu'elles consomment, dès notre retour au bercail. Cesser de pleurer la joue collée au portefeuille, au demeurant bien garni, et être brave parmi les braves pour se mirer dans un miroir aux éclats d'espoir. Dès lors, comment te dire adieu ? Toi, la résidence surdimensionnée, toi, la caisse à double sortie d'échappement à la cavalerie démoniaque, toi, le voyage au bout du monde, toi, le produit qui fait le tour de la planète sur la Terre et dans les airs. Comment aller au charbon sans se faire remarquer ? Devenir discret, éviter d'aggraver son empreinte. Comment consommer l'essentiel sans se faire haïr ? Nous avions prévu un an de pause avec la ferme intention de reprendre nos activités respectives. Reposé et conquérant, toi à la banque d'affaires de ton père que tu serais amené à diriger tôt ou tard, et moi au cabinet médical. À en juger par ses messages secs, ton père s'impatientait. Mes associés me tançaient et souhaitaient un prompt retour puisque, malgré mon remplaçant, qu'il garderait, il ne pouvait plus faire face. La patientèle s'impatientait. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que cette année allait bouleverser la donne en apportant une toute autre orientation à notre vie. Fini les douces habitudes et les certitudes qui nous anesthésient. Nos amis n'étaient plus nos amis. Eux n'avaient pas changé. Nos discours électriques et éclectiques les faisaient sourire pincés et parfois rigoler tendus. Sans leur en vouloir vraiment, parce que eux savaient de sources sûres, parce qu'ils étaient persuadés que, parce que contrariés d'être dérangés par un autrement, parce qu'il est plus simple de ne pas se poser des questions embarrassantes, parce que c'est difficile de l'admettre, parce que sur le fond ils ne savaient pas tant de choses que ça sur les sujets que nous abordions, nos amis n'étaient plus nos amis, inutile de discuter encore, le propos des laves plus blancs est qu'ils ne posent pas de questions. Les laves plus blancs s'adaptent à toutes les situations présentes ou à venir, les condamnent parfois, mais ils ne changent pas de credo. Ils doivent se sentir en sécurité, se sentir privilégiés, se sentir reconnus, se sentir plus que, se sentir vivre confortable. Comment leur expliquer sans les remettre en cause ? Sans les laisser croire que nous avions choisi le candélabre, la barbe hirsute, les jeans troués et les petits joints. Nous avions enfin plus qu'un seul choix, le nôtre. Un an, il nous avait fallu un an. Alors plutôt que de passer une autre année à expliquer à des étrangers devenus pour qu'ils n'adhèrent à l'évidence pas et pour qu'ils refusent de comprendre, il était grand temps de faire. Jenny fit hurler son père en démissionnant. Je dus me fâcher avec mes collègues qui me traitèrent de lâche. Ce qui était sûr, nous n'avions pas pu quitter notre passé bons amis. Mais le passé est mort. Il paraît que sortir d'un schéma, le fameux tout tracé, est à ce prix. Mais ce n'était pas très cher. Nous savions que ce qui suivrait serait enfin une vraie vie. Je veux dire, une vie choisie. Depuis, nous sommes pleins d'énergie et positifs, comme la maison construite en partie de nos mains malhabiles, prémoulées à d'autres tâches. On nous a pourtant prévenu qu'une maison comme ça, c'est beaucoup plus coûteux, et comme chacun sait, l'argent c'est le nerf de la guerre. Heureusement, nous sommes devenus pacifistes. Sur le flanc de notre montagne, nous avons célébré l'an zéro de notre deuxième naissance. Jenny donne des cours d'économie, de ci, de là, pour un salaire de misère, dirait son père, qui ne vient jamais. Moi, je suis l'homme médecine du coin, pour un salaire très en dessous de la moyenne. Et pourtant, nous sommes bien, comme quoi les pauses mènent à tout. Le jour de l'an zéro, Jenny m'a fixé intensément. Elle m'a dit « Que la lumière soit !»